Bonne année.
C'est la première de Solidaires d'abord pour 2023. Alors c'est vrai que cette émission va commencer par quelque chose d'un peu spécial, c'est que moi je voulais rendre hommage à quelqu'un qui a participé à ces émissions dans le passé et qui est décédé aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, on l'a enterré là-haut sur le plateau à Coucouron, puisque c'était quelqu'un de la Confédération paysanne qui était sur le plateau Ardéchois, qui s'appelle Michel Jarlu, je n'arrive pas à le dire au passé. Et donc il a participé à plein d'émissions il y a quelques années déjà. Entre autres, la dernière, c'était une émission sur le loup où il y avait eu des controverses avec quelqu'un qui était venu pour la FRAPNA pour soutenir les animaux sauvages et lui était là pour soutenir les éleveurs. Voilà. Donc, paix à lui. On a toujours nos sujets sous le coude, c'est-à-dire continuer à développer ce que l'on a développé sur le chômage, cette réforme des retraites qui est en cours, ce que cela induit par rapport à notre société, ce que cela induit par rapport à l'argent qui est reversé aussi aux multinationales, même à l'intérieur, à notre nez, à notre barbe en fait. Hein. Il y aura bien sûr le quiz à Denis qui va arrivé en fin d'émission, qui nous a concocté pendant, il a eu le temps pendant presque un mois. Hein. Et puis il y a une affaire qui vient d'arriver là au local et il faudra bien qu'on en parle un petit peu. C'est le préfet de l'Ardèche en roue libre. Alors le préfet de l'Ardèche en roue libre, ça veut dire que par exemple il se permet de prendre un arrêté pour permettre que les travaux qui se font à Saint-Pierre-de-Colombier redémarrent. Et donc, il a fait ça, et il est venu expliquer ça. Le mec, il se sent tous les droits. Il est venu expliquer ça devant le parc, devant les instances du parc. C'était jeudi ou vendredi soir, là, la semaine dernière, jeudi. Et il est venu... c'était une réunion syndicale hein, de tous les élus du parc, etc. Et il est venu expliquer à tous ces gens-là qui étaient contre le fait qu'il y ait eu un permis de construire qui a été accordé à ce chantier basilique. Et il est venu quand même leur expliquer que, lui, il avait redonné le droit aux travaux de se faire. Et qu'il ne fallait pas tout confondre. Qu'il y avait plusieurs affaires complètement différentes. Il y a d'une part le permis de construire, que d'autre part, il y a son permis, lui, le fait qu'il permet que les travaux recommencent, à tel point que c'était tellement des affaires différentes les unes des autres, parce qu'il y a aussi les gens qui disaient que c'était quand même des extrémistes, la famille missionnaire de Notre-Dame, ce sont des extrémistes, hein, ce sont quand même des gens qui sont contre les homosexuels, etc. Enfin, ça va très loin, hein, leur histoire. Et donc ça, c'était encore une troisième affaire. À tel point que moi je me disais, putain, mais attends, il y a peut-être plusieurs basiliques qui sont en construction parce qu'il y a plusieurs affaires. Je ne savais plus où on en était. Et alors toi, Alain, tu avais plein de questions à poser.
Ben moi, ce projet m'a toujours posé question. Je me dis, pourquoi construire dans cette belle petite vallée une basilique gigantesque, hein? Et pourquoi cette association, quelle place elle occupe au sein de l'Église catholique? D'ailleurs, est-elle vraiment au sein de l'Église catholique? Est-ce qu'elle se positionne comme un courant intégriste, comme un courant conservateur? Bon, on peut se poser quand même toutes ces questions. Est-ce qu'elle a une urgence d'obéir pour trouver cette somme? Est-ce qu'elle est guidée par
30 millions.
Alors, où elle trouve cet argent? Qui donne? Pourquoi? Pour quelle motivation? Quand on donne 30 millions, il faut quand même rassembler pas mal de gens ou des gens fortunés.
Si tu donnes, c'est comme toujours les dons, 66%, hop.
L'État va en payer 20%. Voilà. L'État va en payer
20 millions
30,
sur les 30.
30%, l'État... Enfin, Avec les subventions, les gens en payent 30%, l'État va en payer le reste. Ah. Donc à la sortie, c'est nous qu'on paye là.
C'est nous qui payons la super oui. basilique. Mmh.
Donc, puis alors après, je me dis au niveau écologique, je sais que le pape François a écrit Laudato Si, qui est une encyclique assez extraordinaire sur le respect de la nature et sur les problèmes écologiques que nous allons rencontrer. C'est le premier chef d'État, disons, qui a écrit quelque chose d'outil conséquent. Et je me dis, par rapport à cette association qui se revendique catholique, comment elle se situe par rapport à cette encyclique ?
Déjà, le pape et l'évêque. Alors, vous m'aviez repris tout à l'heure, parce que je disais que ça doit être l'archevêque, enfin, bon, un des chefs, là.
Non. En Ardèche, c'est un diocèse et le chef dans l'Église catholique, c'est l'évêque.
Alors, l'évêque a dit qu'il n'était pas d'accord avec ce chantier de basilique. Très clairement, en tout cas, la famille missionnaire de Notre-Dame ne fait pas partie de l'Église dans son concept.
L'Église catholique.
L'Église catholique, c'est un truc à côté. Voilà,
le problème, c'est que s'il faut que ça s'appelle une chapelle, une basilique, ce qu'on veut, il faut que l'évêque vienne faire une cérémonie. D'accord. Pour la baptiser, donc pour qu'elle soit vraiment consacrée. Donc s'il n'y aime pas, c'est une maison.
Elle est marginale, non reconnue.
Alors oui. Après, Denis, t'avais quand même, tu mettais quand même un petit bémol, parce que les travaux sont suspendus pour l'instant.
Voilà, oui, pour l'instant, parce que pour l'instant, voilà, ils jouent la montre. Et on joue en deux temps. Une fois, on va faire les à côté, donc la passerelle, plus les hébergements. Et après, en deuxième temps, c'est la cathédrale. Enfin, la basilique, la chapelle. Enfin, bon, ça a changé.
Ouais. Enfin, ça doit être quand même une grande chapelle, ouais, pour 30 millions.
Oui, et 3 000, jusqu'à 3 500 personnes qui peuvent rentrer dedans. Oui. C'est quand même... c'est un joli...
Je crois qu'on peut abandonner le terme de chapelle.
Donc, en fait, ça pose plein de questions, parce qu'il n'y a pas seulement le côté écologique. C'est par rapport à cette vallée, ce que ça veut dire en termes de surajout, consommation de l'eau, les eaux usées, enfin, etc. Il y a tout un ensemble de dossiers.
Et puis, la position du préfet, quand même, qui est assez extraordinaire, je trouve. Parce que quelles influences dominantes font que ce préfet, qui semble être un esclave docile, il oublie le caractère déterminant...
C'est un commis d'État, monsieur.
C'est un commis d'État. C'est vrai que c'est un salarié, un employé de l'État. Et donc, il semble oublier quand même sa fonction républicaine.
Oui. Ah oui, parce qu'il n'est pas là pour la paix sociale. Là, clairement, c'était ça qui se passait. Parce que donc, moi, j'ai assisté à la réunion qui se passait à Jaujac, où il était venu donc à l'intérieur de cette instance qui est le parc naturel, expliquer pourquoi il faisait repartir les travaux. Il y avait quand même 200 personnes qui étaient venues là, parce qu'ils savaient que le préfet allait intervenir, 200 personnes qui étaient contre ces travaux. Donc, théoriquement, le préfet, il est là, garant de la paix. Et là, il met de l'huile sur le feu, le mec.
Alors, peut-être que, monsieur le préfet, vous avez peut-être peur d'être limogé de votre poste, ou qu'on vous ayez une interruption de carrière dans votre ascension sociale. Vous allez peut-être peur également d'être éloigné de votre confort financier, de votre autorité hiérarchique, des pouvoirs et des autorités que vous attribue cette fonction. Enfin, on peut se poser des questions, par rapport à l'association, par rapport au préfet. Voilà, c'est quand même... Et le pire, c'est que c'est la vallée de la Bourges. Oui. On voudrait pas défendre les Bourges, quand même.
Par contre, on peut signaler que le 14, là, 14 janvier, il y a une réunion, une manifestation, enfin, un rassemblement, on va dire. Oui. Un rassemblement devant la préfecture de Privas, à 14h.
14h, et donc il y aura plein de gens, il faut venir nombreux pour dire au préfet qu'on n'est pas d'accord. Oui, Sylvain.
Moi, je voudrais juste vous dire, si vous voulez avoir quelques réponses supplémentaires à toutes ces questions, c'était le sujet d'Onde Curieuse d'aujourd'hui. On avait une représentante du PNR et du collectif des citoyens qui sont venus nous expliquer. On a quelques réponses aussi, si vous voulez écouter en replay, l'Onde Curieuse d'aujourd'hui, lundi 9
Super.
Janvier.
Merci beaucoup.
Super.
Voilà. Alors, on avance sur nos dossiers de base qui étaient le sujet que l'on développe depuis un certain moment, c'est-à-dire tout ce qui était autour des dérives de cette société, où on se retrouve avec une boucle libérale, néolibérale, qui nous a amené tout un ensemble de choses qui font que plus rien ne marche à l'intérieur de cette société. C'est-à-dire que, par exemple, on n'est plus capable de produire des masques, on n'est plus capable de produire des produits sanitaires, l'école ne marche plus, la santé ne marche plus. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui partent complètement à volo, et tout ça, imaginez un seul instant que ce soit la gauche qui soit au pouvoir. Qu'est-ce que nous diraient pas les économistes de droite, hein ?
Oui. Non, mais le scandale, c'est les remèdes, le paracétamol, les trucs de base, les trucs basiques qui manquent. Alors, j'ai vu un reportage, apparemment, il y en a, seulement c'est 15 ans d'argent. C'est celui-là qui en propose le plus, qui en a. En Bulgarie, il paraît qu'il ne manque pas de paracétamol, tout va bien, parce qu'ils mettent les sous pour. En France, on ne veut pas mettre les sous. On compte. À l'euro près, c'est bien qu'il n'y a plus le remède.
C'est le marché.
Voilà.
Dans une société de comptable, c'est un truc de comptable. Mais ce qui est terrible, c'est que théoriquement, le comptable, il est là pour servir les intérêts de quelque chose qui fonctionne. Alors que ce n'est plus ça qui se passe. Ce n'est plus une société humaine avec un comptable qui nous aide à gérer les sous. C'est une société de comptables qui n'en a rien à foutre de la société humaine. Tu vois. Donc là, il y a une dérive qui ne marche plus du tout, quoi.
Oui, puis maintenant que c'est tendu, avec le Covid, ça a planté toute l'économie, et maintenant que ça redémarre, tout le monde en veut, et tout le monde demande. Et puis en plus, cette année, avec les bronchiolites, le Covid et les grippes, premièrement, ça, tout ce qui est urgence, c'est surbooké, quand on pense qu'on voit les gens attendre des 24 heures dans les couloirs sur des brancards, on se croit dans le tiers-monde, c'est pas possible.
Cette société part complètement à volo, c'est ce que tu es en train de dire avec ce qui se passe au niveau de la santé. Mais par exemple, en plus, l'Union européenne qui est là pour pousser, pour qu'on fasse cette réforme des retraites, hein, parce que c'est l'Union européenne qui est demandeuse et qui est très très libérale, hein, ça ne vous a pas échappé, entre autres. Il y a aussi le scandale qu'il faudra bien régler, qui se passe au niveau de l'Union européenne, sur toutes les commissions qui ont été données par le Qatar, entre autres. Hein. Mais oui. Bref. En tout cas, Macron, lui, est encore plus libéral que l'Union européenne. Il ne faut pas perdre ça de vue, puisque, par exemple, Ruffin nous explique que sur trois sujets pas des moindres, Macron est en train de freiner des cas de fer pour pas que ça se passe à l'intérieur de l'Union européenne. Par exemple, le congé parental rémunéré. Bon, par exemple. Deuxième chose, les droits pour les travailleurs Uber. C'est-à-dire qu'il y avait une réflexion de l'Union européenne pour comment on fait pour donner des droits à ces nouveaux travailleurs. Et comme c'est le dada de Macron et qu'il trouve que c'est très bien que ces gens-là travaillent presque pour rien, ou en tout cas travaillent sans demander des droits, il n'est pas d'accord. Donc il freine des cas de fer. Et puis, troisième chose... au niveau de l'Union européenne, enfin, se poser des questions sur des taxes sur les transactions financières. Et qui c'est qui s'y oppose ?
C'est comme les super-profits. Bruno Le Maire l'a dit, il n'y a pas de super-profits. Il y a des profits, c'est normal, les gens ils mettent des sous, ils achètent des actions, c'est normal, il y a des profits, mais pas de super-profits.
Mais en fait, tout tourne autour du pognon, parce que c'est ça qui est complètement fou. En 1990, 7,7% du produit intérieur brut était alloué à l'éducation nationale. Aujourd'hui, 6,6%. Donc, plus la société avance, moins on donne de sous à l'éducation nationale, par exemple.
Et c'est très triste, d'ailleurs, parce qu'on a de plus en plus de professeurs, d'instituteurs qui ne sont pas vraiment formés. Hein. On a des écoles qui ont disparu de formation.
Mais ça fait plus rêver.
Alors qu'il y a quand même une pédagogie. Il y a la psychologie, il y a disons une approche et des compétences à acquérir. Quoi.
Mais toute la fonction publique, avant, ça faisait rêver d'être instituteur, d'être prof, de l'hôpital, les infirmiers, tout ça. C'est fini. Oui, ils en trouvent plus.
Nos enfants et la formation, c'est quand même la France de demain. Quoi.
Mais les gens, ils préfèrent aller dans le privé.
Et puis, je pense aussi qu'on a. Le capitalisme ou le néolibéralisme ne désire pas avoir des gens qui réfléchissent. Moins les gens réfléchissent, plus ils seront des esclaves dociles et faciles.
Plus facile à manipuler.
Ah oui.
Voilà. Alors, c'est ça qui est... C'est grotesque quand tu confrontes les différentes choses. Par exemple, Jeff Bezos, en 3 secondes, gagne 10 000 euros. Le salaire annuel de plein de travailleurs. Hein. 10 000 euros, il y a plein de gens qui, avec 10 000 euros dans l'année, c'est à peu près ce qu'ils gagnent. Hein. Lui, c'est en 3 secondes. Mais un chômeur sur deux n'est pas indemnisé. Et puis, le salaire moyen d'un gars qui travaille Uber, c'est 600 euros. Enfin, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors qu'il fait énormément d'heures.
Bien sûr.
Il travaille énormément.
C'est-à-dire que petit à petit, alors c'était entre autres le sujet qu'a pris Ruffin en essayant de travailler sur la valeur travail, hein, en expliquant que notre société ne rémunère plus correctement le travail, en fait, hein, parce qu'on en est là. C'est-à-dire qu'il y a plein de caissières de supermarchés, par exemple, qui font des heures, qui courent dans tous les sens, qui n'auront pas une retraite correcte, parce que faut bien voir que la réforme des retraites, les premières personnes qui vont payer la facture, c'est les femmes.
Oui. Ah oui. Hein. Oui, les carrières hachées.
Les femmes, dans l'histoire, quand la réforme aura eu lieu, c'est elles qui vont passer, qui seront le plus imputées par cette...
Elle n'est pas encore passée. Elle n'est pas encore passée, la réforme.
Oui, non, mais si cette réforme passe, c'est elles qui seront impactées par ça.
C'est les femmes, après c'est les ouvriers, les employés.
Voilà. Hein,
tous les précaires.
Tous les précaires. Il faudra qu'ils travaillent plus longtemps et ils n'auront plus la force physique de le faire.
Et pendant ce temps-là, n'oublions pas qu'il y a un an, un petit peu plus d'un an, on nous parlait des Pandora Papers, on nous parlait des Panama Papers, c'est-à-dire de tous ces sujets où il y a des gens qui sont allés chercher les informations, qui ont essayé de mettre ça sur la place publique, qui montrent qu'il y a plein de soit sociétés multinationales, soit de gens très aisés, qui font disparaître 100 milliards chaque année du budget de l'État. Ouais. Et pendant ce temps-là, l'État, il va aller racler 10 euros sur les retraités. Enfin voilà, c'est grotesque le truc.
Mais c'est ce qu'ils ont fait pour les appels. Hein. Oui, 5 euros voilà, sur les ça. Appels. Enfin, 5 euros et plus.
Jeunes, hein.
Oui.
Mmh.
Oui.
Essentiellement sur les jeunes. Hein. Sur les jeunes étudiants. Hein.
Oui. Ben, on les revoit, les jeunes étudiants, maintenant. Ils sont dans les files d'attente dans le Secours catholique, le Resto du Cœur. Mmh.
Mais enfin bon, tout ça montre qu'il y aurait, comme qui dirait, un petit problème sur l'organisation du pouvoir. Pourquoi ? Parce que par exemple, quand Macron nous souhaite les vœux là, et ben au passage, il nous explique que quand même y a un problème climatique.
Oui, oui, oui.
Il s'en était pas encore rendu compte, le mec. Je sais pas si vous évaluez un petit peu le truc, quoi. Le mec, il est au pouvoir depuis 5 ans passés, même plus que ça, puisqu'il était déjà au pouvoir du temps de Hollande. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme info, ces mecs-là, quoi ? Ils travaillent avec quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont dans les mains ? C'est eux qui dirigent. Ils sont pas au courant qu'il y a un problème climatique, quoi. Non, mais attends...
En fait, il est très déconcertant, ce garçon, parce qu'il est capable de dire un jour que les gens ne pourront pas travailler plus longtemps, par exemple, hein, que c'est pas possible au niveau des travailleurs.
Il a écrit,
mes bons amis, travailler plus longtemps, ce serait hypocrite. Et j'invite, c'est Macron qui parle, hein, et j'invite les gens que j'entends dire de manière simpliste, c'est ça la solution, d'abord de regarder d'abord la société, que les gens peuvent pas travailler plus longtemps. Hein. Donc c'est ce qu'il dit. Et aujourd'hui, il met en application, disons, il souhaite mettre en application cette retraite.
Oui, mais
Et à coup de 49.3, il y arrivera, quoi.
La France, c'est pas le vilain petit canard, c'est le petit canard qui embête le caillou dans la chaussure de l'Europe. Parce qu'on est à 62 ans, les autres pays sont à 65, voire 67 ans. Donc il faudrait pas que ça fasse boule de neige, que les autres pays viennent nous copier, disons, et demander à travailler moins longtemps. Donc on est le caillou dans la chaussure de l'Europe.
Oui, mais ça aussi, ils ont créé, enfin, le gouvernement Macron a créé quand même un déséquilibre budgétaire, et donc ils souhaitent les rééquilibrer sur le dos des pauvres,
oui,
hein,
oui,
enfin, sur le dos des travailleurs.
Quand tu parles de déséquilibre budgétaire, on n'a jamais eu une flambée de la dette aussi grosse que depuis que Macron est là, hein, quand même. Hein. C'est ahurissant.
Oui, total. Alors il y a eu le Covid. Hein,
oui, non,
mais quand même.
Il a bon dos le Covid.
Oui, oui.
Hein,
oui. Non,
parce que le quoi qu'il en coûte, le CICE, ça continue.
Et lorsque je parle de déficit, c'est le déficit d'État. Hein, c'est pas du tout le déficit de notre système de retraite, qui aujourd'hui est excédentaire de 900 millions. C'est-à-dire, alors on dit c'est pas beaucoup. Oui, c'est vrai, bon, ramener, c'est pas beaucoup. Dans les années qui vont venir, il sera ce système de retraite très légèrement en déficit. Mais Après, avec la loi Touraine et les gens de 1973 qui peuvent prendre leur retraite plus tard, vivement, disons, le système sera à nouveau rééquilibré. Donc il n'y a pas de problème financier au niveau de nos retraites. On va aller obliger les gens à travailler pour équilibrer les dons qui ont été faits, entre autres par la... La contribution de la valeur ajoutée aux entreprises, des cadeaux qu'on a fait, la CVAE, l'ISF qu'on a abandonné, gouvernement a abandonné.
Le CSE et compagnie.
Voilà. Donc c'est les travailleurs qui vont payer en fait pour rééquilibrer le budget de l'État.
Oui, et puis pour que le service public puisse tourner encore un peu.
Un petit peu, parce qu'il est quand même beaucoup abandonné.
Alors, le service public, je te signale que, par exemple, la Poste, je ne sais pas si tu as vu, donc bientôt...
Il n'y aura plus de distribution de courrier.
Mais ils sont en train de tout nous casser, quoi.
Ça paraît dément.
Ah ouais, c'est, là,
je
ne
sais
on est
pas si vous avez reçu le courrier, mais on a reçu un courrier, nous, en tout cas, qui demandait si on autorisait aux concurrents d'EDF de donner nos coordonnées. Donc EDF, c'est impressionnant ça, EDF va donner des coordonnées des gens qui ne s'y opposent pas à ses concurrents pour qu'ils puissent contacter les gens. C'est aberrant, C'est vraiment, on prend vraiment EDF et les citoyens pour des, pour des moins que rien.
Alors que si tu veux, tu veux avoir les prix conventionnés du gaz, tu sais que ça va s'arrêter en juillet, c'est-à-dire qu'en juillet, d'un seul coup, on va se retrouver avec le tarif réglementé qui ça s'arrête, c'est-à-dire que pour ceux qui sont au gaz de ville, il va falloir se tourner vers de nouveaux opérateurs, comme ils disent. Mais pour EDF, comme il y avait le projet Hercule, là, tu sais, et puis que finalement, puisqu'il veut refaire du nucléaire, il ne sait pas si il laisse passer le projet Hercule, etc. Donc c'est sans arrêt, un pas en avant, deux pas en arrière. Il ne sait pas où il en est. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Hein. On a l'impression que le bonhomme, il n'a plus les clés.
Il s'adapte aux situations. S'adapte aux situations et aux situations des riches.
C'est au jour le jour.
Non, mais aux situations des riches, quoi. C'est-à-dire, c'est le caméléon. C'est un caméléon extraordinaire.
Et donc, il n'y a plus de pilote dans l'avion, en fait. En même temps, il n'y a plus de pilote dans l'avion. C'est ça qu'il fallait comprendre, quoi. Et ça fait un petit moment, quand même, que c'est comme ça.
Écoute, quand tu dis qu'il n'y a plus de pilote, moi, je pense qu'il pilote. Ce garçon. Seulement, il pilote. C'est quelqu'un qui est au service des oligarques.
Alors, oligarque, qu'est-ce que ça veut dire ? Oligarque, c'est...
Disons, nos dirigeants riches qui dominent le monde.
Il faut quand même qu'on fasse un tout petit point avant que ce soit le quiz de Denis, sur le fait qu'on a parlé un petit peu du conflit qui se passe en Ukraine et on n'est pas du tout dupe du fait que Zelensky est un mec qui fonctionne avec les oligarques ukrainiens. Et donc, il fonctionne avec les oligarques ukrainiens.
Et c'est un pro-américain.
Et grâce aux multinationales américaines, entre autres, etc. Il est complètement au service de tout ça.
Ce qui ne veut pas dire qu'on soutient Poutine.
Exactement. C'est-à-dire que le Poutine, il n'est pas net non plus. Et tout ça, ça se passe sur l'émission que l'on a fait la dernière fois, où on a essayé de mettre l'accent sur le fait que pourquoi il y a ce conflit en Ukraine, c'est aussi parce qu'il y a des richesses de plein de minerais, de plein de choses qui est en Ukraine. Et en ce moment, toutes ces multinationales, ces oligarques, etc., sont aux manettes pour essayer de récupérer le bébé.
Comme partout. Malheureusement, en Afrique, c'est que ça. Dès qu'il y a des richesses au Chili, de partout, on déstabilise le président en place pour... Si on ne peut pas le corrompre, on le déstabilise.
Maintenant, ce qui est grotesque, c'est qu'on nous vende tous les matins le Zelensky comme le chevalier blanc de l'Europe, tu vois. Alors ça, moi, ça commence à me gonfler sérieusement. Et puis, le mec, il est vraiment absolument pas net. Il est dans la corruption jusqu'au cou. Il est complètement otage de plusieurs oligarques. Si vous cherchez un petit peu les infos, vous les trouverez là-dessus. C'est pas des infos complotistes, hein, c'est pour de vrai. Et le mec, tous les matins, il vient nous expliquer comment il va gagner la guerre pour nous. C'est à toi, Denis, sur le quiz.
Le quiz. Donc, tous les 15 jours, je pose des questions. Donc, c'est parti. Vous m'utilisez tous les jours. Je suis présent sur toute la planète. Je peux avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je peux avoir toutes les formes inimaginables. Je suis une pollution de notre siècle et je peux être très dangereux. Qui suis-je ? Donc la réponse dans 15 jours.
La réponse dans 15 jours.
Nous
avec un développé de la pollution.
Et peut-être qu'à un moment, d'ailleurs, on aura un invité qui viendra nous expliquer des choses qui ont trait au sujet que tu es en train de développer. Voilà.
Peut-être dans 15 jours. Hein.
Et donc, on a fini l'émission. On vous souhaite quand même un bon courage, une bonne année, tout ça.
Bonne année à
tous. Ne lâchez rien.
Voilà.
Ne lâchez rien.
Oui. Et dans 15 jours, on sera encore là.
Ne vous laissez pas enfumer.
Allez, à plus.
Allez, ciao. Au revoir.